Sainte Thérèse décrit ce qu'elle vit dans une très grande profondeur, dans une très grande simplicité. Alors, on a toujours la tentation uniquement de vouloir répéter. C'est tellement simple. Et on voit en même temps, dès qu'on veut regarder de près, combien cette simplicité implique toute une longue formation d'Esprit Saint, une grande coopération à l'action de l'Esprit Saint, des dépassements successifs qu'il ne faut jamais oublier. Alors, elle est merveilleuse parce que elle nous appelle à ce dépassement. Mais cet appel à ce dépassement nous donne une force et un désir d'y arriver. Mais il ne faut jamais oublier tout le labeur normalement, Dieu nous demande de faire. On doit coopérer avec Dieu, coopérer avec l'Esprit Saint pour passer à travers toutes les purifications successives et tous les efforts personnels. C'est pour ça que si on ne regarde pas de l'intérieur ce que dit Sainte Thérèse, ça peut paraître quelquefois très enfantin. Pendant plusieurs années, j'ai eu des contacts et des discussions avec des psychanalystes. Et quand le sujet de Sainte Thérèse arrivait, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était toujours la réaction. Oh, comme c'est infantile. Et je comprends le style laid, quelquefois. Mais on sait qu'il y a derrière tout un effort personnel constant, et une très grande force d'âme, et une très grande magnanimité. Mais c'est vrai que certaines conclusions pourraient être prises de cette façon-là. Alors, regardons les quelques questions posées. Pouvez-vous mettre en lumière la petite voix de Thérèse dans l'ordre de l'amour, et cette autre petite voie directe, verticale, exacte, qu'est la philosophie servante de la théologie, et donc servante pour la recherche de la vérité qui est Dieu. Voyons tout de suite la très grande différence. Thérèse se place d'emblée au plan surnaturel. Elle ne nous parle pas de la première éducation. Je ne pourrais pas employer ce que nous dit Thérèse, Sainte Thérèse, Saint Jean éducation. Ce serait impossible. On peut faire une retraite sur Sainte Thérèse, parce qu'il s'agit d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Donc, Thérèse de l'Enfant Jésus se place directement à l'école de l'Esprit-Saint. Alors là, très bien, on est à l'école de l'Esprit-Saint. Et on voit que l'Esprit-Saint, par le don d'intelligence, qui met en nous, qui produit en nous la béatitude des cœurs purs, Thérèse nous montre cette béatitude des cœurs purs, qui est ce contact très intime, très profond, dans l'amour, avec la sagesse de la croix. Don d'intelligence, don de sagesse, qui lui donne cette paix intérieure, et qui montre comment l'intelligence, purifiée par la foi, purifiée par le don d'intelligence, va permettre à l'amour divin de s'exercer d'une manière extraordinairement pénétrante et simple. L'amour divin auquel on coopère, qui est l'amour de Dieu pour nous et qui est notre réponse. Plaire à Jésus, et on sait que Jésus aime d'être aimé. La voie de l'intelligence qu'avait montré, qui est vrai, la perspicacité de l'intelligence, comme dit Thomas d'Aquin à propos de Saint Jean. Un très beau passage que vous ne connaissez sûrement pas, du moins quelques-uns le connaissent, que j'aime beaucoup, alors je le répète de temps en temps. Quand Saint Thomas commente l'évangile de Saint Jean, et quand il arrive au dernier chapitre, où Jésus dit à Pierre, Pache oves meas, fais paître mes brebis. Beaucoup de pères de l'Église se sont posé la question, lequel Jésus aimait plus, Pierre ou Jean? À Pierre, il confie l'Église, à Jean, il donne Marie. Puis il développe ça. C'est très beau. Saint Thomas se pose la même question. Et Saint Thomas, en théologien, non plus en père de l'Église, Saint Thomas, en théologien, sait très bien qu'on ne peut pas répondre. C'est un secret. Ce qu'on peut répondre, c'est que Jésus aime beaucoup Pierre et que Jésus aime beaucoup Jean. Que tout l'amour de Jésus pour Pierre ne nuit en rien à l'amour qu'il a pour Jean. Et tout l'amour qu'il a pour Jean ne nuit en rien à l'amour qu'il a pour Pierre. Aucune rivalité. On est au niveau de l'amour divin dans toute sa gratuité. Et cependant, saint Thomas répond. C'est plus fort que lui. Il dit, l'amour de Jésus pour Jean est unique. Et il nous donne trois raisons. La première, à cause de la perspicacité de l'intelligence. Vous voyez la petite voix pour Jean. La perspicacité de l'intelligence. Qui fait que Jean connaît le cœur de Jésus d'une manière très particulière. Et d'une manière très intérieure. On retrouve le don d'intelligence. On retrouve la béatitude des cœurs purs. Mais le don d'intelligence qui fait pénétrer le plus loin possible dans les secrets de Dieu. Saint Thomas ne dit pas à cause de l'intelligence de Jean, mais à cause de sa perspicacité d'intelligence. Et pour Saint Thomas, c'est pas du tout la même chose. La perspicacité d'intelligence, c'est la connaissance des personnes. On peut être très intelligent et très maladroit par rapport aux personnes. Se connaître une personne implique une connaissance affective. Et pas seulement une connaissance métaphysique. Donc la perspicacité de l'intelligence. Et saint Thomas ajoute, un maître aime toujours plus des disciples intelligents. C'est très très joli ça. C'est l'expérience de Thomas d'Aquin. Il ne s'en accuse pas du tout. Il trouve que ça fait partie de la sagesse de Dieu. Un maître aime toujours mieux. Et donc Jésus, en tant qu'il est maître et qu'il enseigne, aime Jean à cause de son attention, à cause de la pénétration de son intelligence. Il va aller toujours plus loin. Seconde raison, la pureté du cœur. Ça, on l'aurait tous dit. On l'aurait mis en premier. Thomas d'Aquin a mis en premier la perspicacité d'intelligence. Seconde raison, la pureté du cœur. Troisième raison, la jeunesse. Et saint Thomas ajoute, On peut donner des signes d'affection aux plus petits qu'on ne peut pas donner aux plus grands. Et Jean était sûrement le plus jeune de tous les disciples du Christ, des apôtres. Et Jésus a donné un signe d'affection extraordinairement tendre à Jean à la dernière scène, puisque Jean reposait sur la poitrine de Jésus. Je crois que c'est très intéressant ça, parce que ça nous fait dévoiler le regard d'un saint, Thomas d'Aquin, un saint particulièrement exigeant dans sa recherche de la vérité, à l'égard d'un autre saint particulièrement exigeant dans sa recherche de la vérité. Jean, tous les orientaux le considèrent comme le théologien. Jean est le théologien, c'est-à-dire celui qui met toute son intelligence au service de sa foi. Et saint Thomas, pour l'Occident, est le théologien. Et les deux s'unissent. Quand on fréquente des théologiens orthodoxes, et j'aime bien quand je peux en fréquenter, puisqu'il faut que les contacts avec les orthodoxes soient le plus fréquents possible. Ça, c'est le désir de l'Esprit-Saint et du Saint-Père. Chaque fois qu'on peut, on doit essayer d'être le plus proche possible d'eux. Et ce théologien orthodoxe, qui est à Paris, et qui enseigne, je connais un peu, il sait le très grand amour que j'ai pour Thomas d'Aquin, et il sait le plus grand amour encore que j'ai pour saint Jean. Il dit, comment pouvez-vous aimer les deux? Je lui ai dit, mais ils sont tellement proches. Oh, pas du tout, disait-il, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Saint-Jean. Thomas d'Aquin, je lui ai dit, est-ce que vous l'avez lu? À ce moment-là, il a baissé la tête. J'ai lu certains de ses disciples. Ah, mais non, il faut le lire. Il y a des disciples de Saint-Jean qui ont perdu la tête. Ils disent des choses complètement d'à côté. Et il y a des disciples de Saint-Thomas qui n'ont rien compris à Saint-Thomas. Il faut lire Thomas d'Aquin en contemplatif. Alors j'ai essayé de lui expliquer cette rencontre des deux théologiens. Ce primat de l'amour des deux côtés de ces deux théologiens. Mais évidemment, il s'exprime très différemment. Et Jean, sous l'action directe de l'Esprit-Saint. Thomas, avec tout son travail intellectuel, offert entièrement pour la recherche de la vérité. Vous savez ce qu'on raconte sur Thomas d'Aquin? Quand il faisait son traité sur l'Eucharistie, qui est sûrement un des plus beaux traités qu'il ait fait, il a été déposé son manuscrit tout près du tabernacle en disant, Jésus, je te l'offre. Si ce n'est pas exact, si c'est faux, brûle-le. Si tous les théologiens faisaient ça, il y aurait un beau feu d'artifice. Brûle-le. Et si c'est bien, je te l'offre et corrige ce qu'il faut corriger. Et ça, c'est la très grande pauvreté de Thomas d'Aquin. Et là, il est proche de saint Jean. Il est proche de la petite Thérèse. Je connais bien saint Thomas. Et quand je lis la petite Thérèse, ça ne me gêne en rien du tout. Je suis entièrement d'accord. Parfaitement. Petite sainte qu'on aime, elle nous est donnée. Mais c'est vrai que c'est très bon si on peut ajouter à cette petite voie de l'amour qui implique un escalier, un ascenseur, je veux dire, un ascenseur. Peut-être que Thomas d'Aquin, c'est l'escalier. Vous voyez ce que je veux dire ? On arrive au même but. Et quelquefois, en prenant l'escalier, si on est encore jeune, on va très vite. On peut courir. Parce que Thomas d'Aquin implique tout un travail, tout un labeur. Un labeur de travailleur. Ce n'est pas les voies d'accès qu'il faut regarder en premier lieu. C'est le terme. Tous les deux aboutissent à ce primat absolu de l'amour. Il y a cette soif de la contemplation et de la vision béatifique. Mais c'est vrai que Dieu a demandé à Thomas d'Aquin autre chose que Thérèse. Vous pouvez vous poser la question, lequel des deux tu aimes le plus ? Et je répondrai, je ne peux rien dire. Elle est docteur de l'Église. On peut donc comparer les docteurs entre eux. Et je crois que si on opposait Thérèse, la petite Thérèse, à Thomas d'Aquin, ça prouverait qu'on n'a rien compris à Thomas d'Aquin. Ou qu'on n'a rien compris à Thérèse. Alors que si on essaie de voir cette soif de vérité des deux côtés, elle le répète plusieurs fois, on ne s'attendrait pas à elle. Elle désire être docteur de l'Église, qu'elle désire tout. Donc elle ne rejette pas du tout ce docteur, ce théologien docteur. Elle le veut au contraire. Elle a une telle soif de vérité. Mais c'est vrai que Thomas d'Aquin nous donne comme une autre voie, très simple, d'une limpidité extraordinaire. Que Thomas d'Aquin regarde le mystère de Dieu dans sa simplicité et qu'il regarde le mystère de Dieu trine. C'est une très grande limpidité. Et là, il y a quelque chose de commun. Mais il y a une limpidité, j'allais dire, d'une gratuité tellement forte dans la petite Thérèse, où Dieu doit aller rapidement. Et où la petite Thérèse, elle, n'est pas du tout une paresseuse. Elle suit en donnant tout ce qu'elle peut donner. Le labeur est beaucoup plus visible chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est beaucoup plus serviteur de l'Église. La petite Thérèse est témoin, comme un enfant peut être témoin, dans sa petitesse de carmélite. Il y a un parallélisme. La prudence ne semble-t-elle pas s'opposer à la vertu d'espérance dans les nécessités pratiques de la vie ? Très bien. C'est vrai, je parlerai à des travailleurs en dehors de la retraite. Je parlerai en philosophe en dehors de la retraite. Je montrerai l'importance du travail, le caractère d'efficacité du travail. Un travail n'est un travail que quand il est efficace, il demande d'être efficace. Le travail demande des mœurs de travailleurs, pas perdre de temps, être fidèle, autant que possible, être doux, être beau. C'est grand les mœurs de travailleurs et de serviteurs. Et tout ça demande d'être sous la vertu de prudence pour être bien géré, organisé. La vertu de prudence ordonne tous les moyens à la fin. Et la vertu de prudence met un ordre dans la valeur différente des moyens. Il y a des moyens qu'on peut abandonner, il y a des moyens qu'on ne peut pas abandonner, qui sont absolument nécessaires. La prudence nous demande d'avoir une très grande lucidité sur nos capacités, sur nos fragilités, sur tout ce qui nous a blessés, sur tout ce qui nous a heurtés dans la vie. Une très grande lucidité. Et la prudence pour le chrétien demande d'être dépassé. Je parle de la vertu acquise de prudence. Elle demande d'être dépassée par la vertu infuse de prudence, transformée par la charité et transformée dans son exercice par le don de conseil. Il n'y a pas de contradiction entre la prudence et l'espérance. Par la charité, on voit la continuité. Continuité très particulière, hein, parce que c'est très vrai, surtout dans des temps comme les nôtres, qui sont des temps de grande lutte, à tout point de vue. Je crois que la lutte au niveau théologique n'a jamais été aussi forte, parce qu'on se permet tout. Il n'y a plus de garde-fou. La lutte au point de vue économique est écrasante. Les grands économistes le disent. Ils sont tellement affolés qu'ils ne savent plus quoi dire. La lutte au niveau éthique est difficile. Surtout l'éthique familiale. L'éthique de la procréation, l'éthique au niveau de la justice, de la miséricorde. C'est très difficile aujourd'hui. Un petit signe de ça, c'est qu'on ne trouve plus de professeurs de morale et de théologie morale. C'est la chose la plus difficile à trouver aujourd'hui. Ce qui montre combien c'est un domaine qui aujourd'hui est très difficile, pas dur brèche. À tous les domaines. Je crois qu'il n'y a pas un seul domaine où la lutte va très loin et touche quelque chose d'assez ultime. Alors on comprend très bien que la prudence est aux aguets. Prudence à l'égard de nous-mêmes, dans notre propre gouvernement. Prudence familiale pour un père de famille. Prudence au niveau économique, quand on a des responsabilités de chef d'entreprise, ou tout simplement quand on a des responsabilités pour maintenir certaines industries, certains chantiers, pour maintenir le travail de tous ceux qui sont attachés et de ne pas licencier trop vite. Et puis, cette espérance merveilleuse que nous décrit la petite Thérèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Il ne peut pas y avoir de rivalité entre les exigences surnaturelles et les exigences humaines. Tout ce qui est divin est éminemment humain. Ne disons jamais que le divin est inhumain. c'est pas vrai. Mais le divin exige de l'humain d'aller très loin. Très exigeant d'être chrétien. C'est très exigeant. Et il y a des tas de choses qu'aujourd'hui on comprend très bien. Je prends simplement ce petit exemple. Dans la philosophie de l'Inde, je la connais pas beaucoup, mais j'ai un ami qui est spécialiste. Et on en parle souvent ensemble, quand on se voit. Le phénomène des idéologies athées, qui existe depuis 150 ans, et qui a secoué terriblement notre Europe, puisque ces sept idéologies athées sont nées de l'Europe. Ces sept idéologies athées n'auraient jamais pu naître dans l'Inde. Alors, la tentation, c'est de dire, voyez, le christianisme produit ces idéologies athées. Le christianisme à préparer ses idéologies athées. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Et c'est vrai, ces idéologies athées ne peuvent se comprendre que dans un horizon de chrétienté. Parce que, en réalité, ces idéologies athées sont des antichrists. Anti-béatitude évangélique. C'est pour ça que la petite Thérèse vous est donnée. Je connais quelqu'un qui a fait un parallélisme entre la petite Thérèse et Nietzsche. C'est très juste. Et c'est très beau. C'est bien dommage que ce soit pas paru. Il y a un manuscrit. Et c'est très vrai, ça a l'air d'être complètement contradictoire. Ces sept idéologies athées sont nées en terre chrétienne, dans notre Europe, berceau du christianisme. Comment ? La foi mûrit notre intelligence. D'une manière extraordinaire. Et la foi peut, si on est paresseux ou si on n'a pas le temps, remplacer les études philosophiques qui mettent beaucoup de temps. Alors, on tombe dans cette attitude, la foi le dit, je n'ai pas besoin de développer mon intelligence par rapport à l'homme. Je tombe dans une sorte d'obéissance aveugle. Aveugle. Puisque la foi est une certaine obéissance. Et je ne développe plus mon intelligence. Et l'Église a mis en garde cela. Elle a condamné le fidéisme. Et le fidéisme, c'est dire, ma foi dit ça, et seule la foi peut le dire. Donc je n'ai pas besoin de réveiller mon intelligence. Et il y a un fidéisme spéculatif, et il y a un fidéisme pratique. La charité est là, la charité couvre tout. J'ai pas besoin d'essayer d'être vertueux, d'essayer de conquérir les vertus, puisque j'ai la charité. Vous savez, on dit de temps en temps que les catholiques manquent un peu de justice. Ils télescopent la justice, parce qu'ils ont plus, ils ont la charité. Alors on peut laisser tomber. Pour les impôts, vous voyez. Pour d'autres choses aussi. Et on dit quelquefois, les religieux aussi oublient complètement le point de vue de la justice. Ils ont la charité. C'est vrai, il faut le reconnaître. Que la foi ne devrait pas être un éteignoir de notre intelligence philosophique ou de notre prudence. Elle devrait, au contraire, nous aider à aller jusqu'au bout des exigences de l'intelligence, aller jusqu'au bout des exigences de la prudence, aller jusqu'au bout des exigences de la prudence. C'est pas la foi qui est coupable, c'est le croyant qui a été paresseux. Et quelquefois une paresse généralisée. Je crois que si on est vraiment croyant, on met toute son intelligence au service de sa foi. Et si on est vraiment croyant, la foi regarde aussi le point de vue pratique. On met toute son intelligence pratique pour acquérir la prudence. Et pour acquérir la prudence, il faut acquérir la justice, la force, la tempérance, les vertus cardinales. On ne peut jamais faire l'économie des vertus cardinales. Au moins, comprenez bien, au moins chercher à les acquérir. Et chercher indéfiniment à les acquérir. Pas dire, maintenant j'ai 15 ans, j'ai les vertus cardinales. Non, je ne fais plus aucun effort au point de vue de la tempérance. Je ne fais plus aucun effort au point de vue de la force. Je ne fais plus aucun effort au point de vue de la prudence. Alors il y a un laisser-aller. C'est une tentation. Mais il faut être très net là-dessus. L'Église a condamné le fidéisme. Et Paul VI, à une audience à laquelle j'ai assisté, après un petit débat théologique et philosophique avec un certain nombre de théologiens et philosophes, Paul VI nous a reçus dans une petite audience. Et il a dit, le plus grand mal à l'Église, c'est le fidéisme. Et Paul VI, quand il disait ça, savait très bien ce qu'il disait. Ça m'a beaucoup frappé, moi. J'ai oublié complètement tout là ce qu'il a dit. Mais ça, je l'ai retenu. Parce qu'il s'adressait à des théologiens. Et le plus grand mal, le fidéisme, donc c'est ça, oui, on abdique. On dit l'intelligence, elle n'est faite que pour les mathématiques et que pour les sciences positives. Et on oublie l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, qui est une intelligence philosophique et métaphysique. Et le Saint-Père actuel y tient beaucoup. Il est désolé que très souvent on ait abandonné la philosophie, la métaphysique. Voilà, la seule recommandation qu'il m'a faite, c'est ça. N'abandonnez jamais la métaphysique. Et je vous demande de faire que vous formiez de vos jeunes frères à la métaphysique pour qu'elle existe encore dans l'Église. C'est étonnant un pape qui dit ça. Hein. Et c'est très bien ce qu'il dit à ce moment-là. C'est nécessaire. Si on cherche la philosophie, on ne sera pas fidéiste. Et on essaiera de comprendre l'homme dans toutes ses dimensions, sa finalité, sa complexité, et en lui la difficulté d'acquérir les vertus, à cause de toutes les luttes, à cause de tout le contexte. On vit dans un contexte qui est très difficile à vivre, au point de vue chrétien, au point de vue vertu. Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est très difficile aujourd'hui d'allier une vraie prudence avec une espérance toute divine. Alors, il faut toujours respecter l'ordre. Les vertus théologales sont premières. Quand je dis ça, faisons attention, hein. Premières en noblesse, parce qu'elles sont divines. Mais dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre génétique, il est nécessaire de comprendre que la recherche de la vérité, de l'acquisition des vertus morales, celle de prudence, est absolument nécessaire pour que de là, la foi puisse s'épanouir avec une plus grande légèreté et une plus grande liberté. Et c'est la même chose pour l'espérance. Il ne faut pas que les vertus morales arrêtent les vertus théologales. Mais il faut comprendre que les vertus théologales demandent de s'enraciner en nous par des actes humains, des opérations humaines qui assument nos passions, notre psychisme. Autrement dit, il faut que les vertus théologales réclament de nous cette éducation, cette acquisition des vertus morales, des vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance. Nous en avons toujours besoin. Personne ne peut dire, maintenant je suis arrivé à un certain degré de sainteté, je peux m'en passer. J'ai une foi tellement forte, je peux m'en passer. L'exemple merveilleux, c'est Marie. L'exemple merveilleux, c'est la petite Thérèse. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a voulu travailler, jusqu'au moment où elle ne pouvait plus. Et le travail, c'était sa maladie. Et elle l'a accepté. Et elle a accepté que ça dure, que ça dure. Donc, ne disons jamais que l'espérance supprime la prudence. Non. L'espérance surnaturelle augmente notre prudence. Du moins, exige que notre prudence soit augmentée. Un père de famille, chrétien, qui veut avoir un foyer profondément chrétien, qui soit comme une petite église domestique. Un père de famille chrétien de cette manière doit être d'autant plus prudent parce qu'il a normalement des lumières nouvelles et doit donc exercer sa prudence. Mais une prudence qui n'est pas seulement humaine, une prudence qui est tout ordonnée à la charité, tout ordonné à l'amour. Et donc, une prudence infuse qui lui permet d'être en connaturalité avec la prudence infuse. Comment peut-on être sûr de faire la volonté de Dieu dans le choix de telle orientation, dans tel événement quotidien, dans le choix de l'orientation de notre vie? Comment peut être sûr? Je dirais certain, c'est plus juste comme mot, vous avez rien, ça c'est une petite discussion, de faire la volonté de Dieu. Première condition, avoir cette intention profonde de ne vouloir faire que la volonté de Dieu. Et que si cette volonté de Dieu se manifestait clairement, on y adhérerait tout de suite. C'est la première condition, ça. Ça, c'est la condition d'un cœur qui cherche la vérité. D'un cœur pur qui cherche la vérité. C'est pas si commode, hein, de se mettre vraiment dans cette intention-là, grâce à la prière. Il faut beaucoup prier pour ça. Et c'est la première condition. Arriver à ne chercher que la volonté du Père. Être tout entier aux affaires du Père, à la suite de Jésus. Deuxièmement, si on ne voit pas clair, on demande conseil. On comprend que le choix qu'on fait, celui-là, on le connaît, doit permettre d'atteindre la fin qu'on recherche. Que ce soit pas un choix anarchique, mais un choix capable de nous permettre d'atteindre le but. Alors, on sait que dans le choix humain que nous faisons, le choix prudentiel que nous faisons, il y a toujours deux pôles d'attraction. C'est pour ça que les choix sont si différents. Il y a deux pôles d'attraction. On choisit le moyen le plus proche de nos capacités. On choisit le moyen le plus proche de notre finalité. Et ces deux choix peuvent être légitimes. Tous les deux sont humains. On choisit un choix. Non, ne bougez pas et priez pour elle. Est-ce qu'il n'y a pas un médecin ici? Ah oui, oui, Lucia, allez-y. Je continue, je crois que c'est le mieux. Comme ça, vous priez pour elle. Et que ce n'est, je crois pas que c'est grave, c'est normal, après le repas, un repas qui, en l'honneur de Monseigneur Kia, était parfait, était un repas de fête, n'est-ce pas, que c'est plus difficile de suivre un cours l'après-midi. Et puis, il fait chaud ici, dans les ventilateurs. L'infirmier du couvent, c'est qui? Il est là. Vous voyez, cette chose très importante, quand on choisit un moyen en vue d'une fin, on sait très bien. Il suffit d'être lucide dans nos choix. Il faut l'être. Il faut être lucide dans nos choix. Et ne jamais prendre, choisir dans un état où notre irascible est trop fort. Où notre concupiscible est trop fort. Parce que l'irascible et le concupiscible empêche la prudence d'aller jusqu'au bout. Et donc de vraiment choisir. Et le choix d'un moyen, il est ou en connaturalité plus grande avec celui qui choisit, connaissant ses faiblesses, connaissant ses capacités, connaissant... ou le choix est en connaturalité avec la fin qu'on poursuit. De sorte que on ne peut jamais juger de l'extérieur, dire il s'est trompé dans son choix. Non. On peut comprendre qu'il a choisi ça parce que, de fait, il était dans un état de grande fragilité. Et quand on est dans un état de grande fragilité, on choisit ce qui nous semble être le plus proche de nous. Voyez, j'allais dire, dans un foyer, dans une vie commune, c'est très intéressant, et c'est même nécessaire, d'avoir cette lucidité sur les choix. Pour savoir que si on choisit tel moyen, est-ce que c'est en raison de notre faim? Ou est-ce que c'est en raison de nous? Et quand on fait cela, et qu'on est suffisamment lucide dans ce choix, on comprend très bien la diversité des choix, qui même peuvent s'opposer alors qu'on a la même finalité. Vous savez bien, il y a cette chose très curieuse. Quand les papes étaient à Avignon, Catherine de Sienne était pour que le pape retourne à Rome. Saint Vincent Ferrier était pour qu'il reste. dominicaine, dominicain. Donc ils ont la même formation. Et l'un disait ça, l'autre disait l'autre. Alors vous voyez, là on touche quelque chose qui me semble très important. Le choix est toujours relatif. C'est pour ça que la béatitude, c'est la pureté du cœur. C'est là l'absolu. Il n'y a pas d'absolu dans un choix. Et dans un moyen qu'on choisit. Il n'y a pas d'absolu. On peut rendre un moyen relatif plus ou moins absolu. Ça, c'est sûr. C'est le cas des vœux. Qui fait qu'un moyen relatif devient, en raison de ce qu'on a fait, un absolu. Un certain absolu, c'est pas l'absolu parfait, mais c'est un certain absolu. Comme le choix pour le mariage. Par le sacrement de mariage, ce choix devient un certain absolu. Il y a fidélité au choix. Mais avant le mariage, vous n'allez pas me dire que il y a quelqu'un qui s'impose d'une manière telle que c'était, je me souviens tout le temps, dans ma jeunesse, notre grand-père nous parlait tout le temps de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qui avait des soifs pontificales, qui était d'une générosité extraordinaire, mais il était déjà, je crois qu'il avait 30 ans, pas marié. Elle disait tout le temps, mais pourquoi tu ne te maries pas? Je cherche Miss Idéale. Alors tous les autres disaient, mais tu ne le trouveras jamais. Il faut bien contenter, quoi. Qu'elle soit suffisamment gentille pour toi, qu'elle soit future mère de famille, qu'elle soit bien, mais tu ne cherches pas Miss Idéale. Un beau jour, on a appris qu'il s'était marié. Alors tous ses amis ont été faire un pèlerinage à Miss Idéale. C'est gros comme exemple. C'est vrai, hein, c'est pas charrié du tout. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est très important de comprendre que le choix d'un moyen n'est jamais un absolu. Donc la volonté de Dieu, elle est dans ce fait que nous cherchons à l'aimer. Et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aimer. Nous n'avons qu'un seul désir, c'est de faire sa volonté. Si on savait laquelle, c'est ça l'absolu. C'est ça la béatitude des cœurs purs. Il n'y a pas de béatitude des cœurs purs pour le choix. Non. Jamais. Alors évidemment, si on est soumis à l'obéissance, on sera de bien composer entre ce qui nous a demandé et ce qui nous semble bon. Normalement, aujourd'hui, ça peut se faire assez facilement. Il y a une certaine souplesse. Puis on pourra discuter sur la qualité de ce moyen. Mais ne cherchons pas dans le moyen un absolu. Aucun moyen n'est un absolu. C'est la différence entre, vous voyez, une règle de vie et l'évangile. Une règle de vie n'est jamais un absolu. Sauf si nous nous engageons à vivre cette règle de vie. Alors, très bien. Autrement, je pourrais toujours la critiquer. Parce que justement, le choix, Dieu nous laisse libre. Et Dieu veut que nous soyons libres. Et Dieu veut que ce choix soit tout imprégné d'amour. Tout imprégné de son amour. Et chaque fois que nous avons à choisir, nous devons tout le temps, si nous sommes chrétiens, prendre un petit moment de recueillement et de prière pour faire ce choix en union profonde avec l'Esprit Saint. Ah, encore une question. Comment faire plaisir à Jésus? Avoir un cœur pur, un désir intense de l'aimer. Pourriez-vous expliciter mieux l'obéissance de Jésus à l'égard de son Père? En quoi a-t-il obéi, précisément? Il a obéi dans sa prudence, la vertu de prudence que Jésus avait, et sa charité. Jésus a posé des actes d'obéissance éminents. Alors lui, c'est très différent, puisque il y avait la vision béatifique. Et la vision béatifique n'est pas immédiatement la mesure de la prudence. La vision béatifique, c'est le chapeau, vous voyez. Puis alors on descend. Troisième étage, deuxième étage, premier étage, rez-de-chaussée. Et entre eux, la vision béatifique et le rez-de-chaussée, parce que Jésus avait la complexité de la nature humaine, et il a vécu de la complexité de la nature humaine, dans son vouloir humain. Mais la vision béatifique met dans sa charité et dans l'exercice de sa charité une force unique. De sorte que tout était illuminé par la charité, par l'amour. Je dis bien, illuminé par le feu. Pas illuminé par la lumière, mais par le feu. C'était un feu lumineux qui illuminait toutes les actions de Jésus. Et qui lui faisait comprendre ce qu'il devait faire. Sous l'emprise de l'Esprit-Saint et sous la conduite de l'Esprit-Saint. Plaire à Jésus, c'est de toujours vouloir faire la volonté de l'Esprit-Saint. Et ne jamais imiter quelqu'un. Fût-il un saint, même la petite Thérèse, on n'a pas le droit de l'imiter. On est lié directement à l'Esprit-Saint. Et c'est avoir ce désir de suivre constamment l'Esprit Saint, ce qu'il nous dit, qui plaît à Jésus, et qui nous met dans l'obéissance au Père, et dans l'obéissance à Jésus. Donc il a obéi pour toutes les actions de sa vie, quand il a été au désert, quand il a obéi à Marie, il a accepté d'obéir à Marie. Il a accepté que Joseph exerce l'autorité sur lui, dans son domaine propre. Il a accepté toute la loi juive, qui d'une certaine manière, pour lui, était complètement dépassée. Il l'a accepté pour rester vraiment caché et pouvoir faire pleinement l'œuvre que Dieu lui demandait de faire. Il obéit à la croix. Comment savait-il ce que le Père désirait? Il le savait par sa science infuse. Il le savait dans sa charité. Avant tout, dans sa charité. Il savait les intentions profondes du Père sur lui, sa mission. Pourquoi il est venu sur la terre? Qu'il devait glorifier le Père et nous sauver. Et que c'était ça qui commandait tout. Donc, toute sa vie, il était dans cette obéissance plénière à l'Esprit Saint. Vous avez parlé plusieurs fois de différentes manières de faire un bon examen de conscience. Pourriez-vous les énumérer encore? Ah, ça, difficile. Je crois que la meilleure manière de faire un examen de conscience, c'est d'anticiper le jugement particulier. Nous pouvons anticiper le jugement particulier. Vous voyez ce que ça veut dire? Le jugement particulier, selon l'Apocalypse, c'est mon interprétation. Donc, c'est pas objet de foi. Le jugement particulier, selon l'Apocalypse, pour chacun d'entre nous, ce sera la vendange et la moisson. Et puis il y a le jugement général, où il y a la vendange et la moisson, par rapport à tout ce qui touche notre corps. Tandis que le jugement particulier, c'est notre âme. La vendange, c'est Marie. La moisson, c'est Jésus. Marie, elle s'intéresse avant tout à notre charité fraternelle. Je n'insiste pas, je reviendrai sur la charité fraternelle ce soir et demain sur Marie. Et Jésus, c'est notre amour à l'égard du Père, avant tout. C'est notre adoration et notre amour à l'égard du Père. La moisson. Se mettre en face de Jésus, en face de Marie, et leur demander ce qui, dans notre journée, a pu blesser son cœur. Ce qui a été tiède. Ce qui a été tiède dans la charité fraternelle et qui a blessé le cœur de Marie, le cœur d'une mère. Ce qui, dans notre journée, a été violent par rapport à nos frères, nos sœurs, par rapport à ceux que Dieu a mis sur notre route, le prochain. Par rapport au travail, parce que nous avons travaillé comme il le fallait pour la communauté dans laquelle on est. L'Écriture est très nette là-dessus. Si on ne travaille pas, on n'a pas besoin de manger. On n'a pas le droit de manger. Travailler. Et ça rectifie beaucoup de choses. Ça redonne un équilibre de travail bien fait, avec conscience, avec un désir d'aller jusqu'au bout. Ça rectifie tout. Quand on ne travaille plus, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est très important, ça. Très, très important. Alors, on doit essayer d'être très net là-dessus, comme examen de conscience, et regarder cela directement sous le regard de Jésus et de Marie. Vous voyez, un examen de conscience comme celui-là, il est contemplatif. Il anticipe le jugement particulier. Quand nous verrons Jésus, quand nous verrons Marie, on n'aura aucun désir d'un examen de conscience. On n'aura qu'un seul désir, c'est que l'un et l'autre nous prennent très fort dans leurs bras, nous embrassent et nous disent leur amour. On goûtera à ce moment-là le feu divin du cœur glorieux de Jésus, le feu divin du cœur glorieux de Marie. On n'aura aucune envie de se réchauffer auprès d'eux, se réchauffer divinement dans la charité. Alors, il vaut mieux faire notre purgatoire sur la terre. Et on peut le demander, ça. Vous avez le droit de le demander. Faire notre purgatoire sur la terre pour ne pas avoir de purgatoire à faire sur le ciel. Et cela réclame anticiper le jugement particulier et le jugement général. S'habituer à vivre face au Christ, face à Marie, et écouter leur manière de nous éduquer. C'est merveilleux comme ça purifie ça. C'est étonnant. Et en face d'eux, on peut montrer toute notre faiblesse, on peut montrer tout notre conditionnement, on peut montrer tous les refoulements qu'il y a pu avoir dans notre vie, puis on demande que tout ça soit dans la vérité. Et comment on peut déminer tout cela? C'est bon, un examen de conscience comme celui-là. Heureusement que l'heure est passée. Que pensez-vous de la position de l'Église par rapport aux filles en fin de compte?